Bonjour frères et sœurs. Alors mes salutations en Jésus-Christ. Nous continuons nos séries d'enseignements et de prédications. Et le message de ce matin, l'inimitié entre l'Église et le monde. Nous allons tourner dans 2 Corinthiens chapitre 6. Versets 14 et 15. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15, où il est dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? » Je dirais ce matin qu'une des grandes erreurs de l'Église est son partenariat avec le monde. Son partenariat avec le monde. Et ce n'est pas nouveau. Il prend des formes différentes dans chaque période de l'histoire. Mais c'est quelque chose qui se perpétue de génération en génération. Et je veux parler de la nécessité pour l'Église de comprendre qu'elle ne peut pas s'associer au monde dans un sens réel. Je vais lire quand même beaucoup de versets ce matin. Alors, je vous demande d'avoir une certaine compréhension, un certain pardon, parce qu'il va y avoir quand même plusieurs versets. Il y a le verset du 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15, mais j'aimerais aller dans le livre de Matthieu, pour commencer, le chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, et on reprend l'histoire très familière de la confession de Pierre au verset 13. Jésus entre dans le district de Césarée de Philippe et demande à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils dirent, certains disent Jean-Baptiste et d'autres Élie, mais d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus leur dit, mais qui dites-vous que je suis? C'est alors que Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Écoutez, c'est le moment le plus élevé de la vie de Pierre. Je vous explique. Jésus, c'est comme si Jésus lui dit, « Hey, mon ami, toi, tu l'as l'affaire. » Je pense que chacun d'entre nous aimerait se faire dire par le Seigneur, « Ce que tu as dit vient vraiment du ciel. » C'est à peu près ça qu'il a dit à Pierre. Un point culminant. Et c'est alors que Jésus mentionne une de ses répliques que tout le monde se souvient. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » OK? Autrement dit, Pierre sera le point de départ de la fondation de l'Église. C'est comme si Jésus lui dit, Jésus lui donne les clés du royaume. Puis il va pouvoir dire aux gens comment entrer dans le royaume de Dieu. un genre d'autorité de la part de Dieu. C'est vraiment un temps, une période très courte où que vraiment Pierre a fait une de ses révélations vraiment extraordinaires. Mais on va un petit peu plus loin. On s'en va dans le verset 21. Et un petit peu plus loin, Jésus a commencé à montrer à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem et qu'il souffre et qu'il va souffrir beaucoup de la part des anciens, des prêtres et des scribes, à être tué et à être élevé le troisième jour. Alors, il raconte ça aux apôtres. Et Pierre, encore Pierre, le prit de côté et se mit à le réprimander en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et savez-vous ce que Jésus, une autre réplique de Jésus, et Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan. » Écoutez, pense en quelque temps de la parole au nom de Dieu en bénissant Pierre et après ça, en la représentation de Satan. Il dit à Pierre, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alors que dans l'autre, le verset 13, Pierre était encensé par Jésus. Et là, il lui dit, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Un point haut avec un point très, très bas. Arrière de moi, Satan. Écoutez, c'est quelque chose. Jésus dit ça à l'apôtre, l'apôtre principal, l'apôtre qui serait un témoin oculaire de la résurrection du Seigneur, l'apôtre qui prêcherait le premier sermon dans la fondation de l'Église le jour de la Pentecôte, l'apôtre qui serait le prédicateur à travers la première moitié du livre des Actes. C'est une réprimande très, très sévère. Puis on voit dans Matthieu ce genre de réprimande-là, savez-vous, ce que Jésus, à qui Jésus le dit? On revient dans Matthieu, chapitre 4, verset 10, quand Satan est venu tenter Jésus. Et Jésus a dit la même chose au diable. « Retire-toi, Satan. » La tentation était la même. Quelle était la tentation de Satan? Quand Jésus a rencontré Satan, c'est quoi la similitude entre les paroles de Pierre et les paroles de Satan? Je vais vous le dire, c'est donner le royaume de Dieu sans la croix. La couronne sans la croix, le royaume sans la croix. Incline-toi devant moi et je te donnerai toutes ces choses. C'est ça, c'est ce que Satan avait dit au Seigneur. Puis en passant, c'est la réprimande la plus dévastatrice qui soit jamais sortie des lèvres du Seigneur envers un disciple. Pourquoi? C'est comme si Pierre avait repris la cause de Satan. Parce que Satan ne voulait pas que Jésus prenne la croix. Et quand Jésus a fait remarquer aux disciples ce qui arriverait, ce qui devait mourir, encore la croix, Pierre a refait la même chose, sans savoir, évidemment, en voulant dire, non, non, ça ne t'arrivera pas. Le royaume va arriver, mais pas la croix, tu ne mourras pas. Et quand quelqu'un parle du royaume de Dieu, quand quelqu'un parle justement du royaume de Dieu, il parle des choses de la vie de Jésus, les choses à venir, puis qu'il ne parle pas de la croix, ça ne veut absolument rien dire. C'est comme si on prend la cause du diable. C'est comme si on donne à Jésus, on veut donner à Jésus, on comprend ce que Jésus veut faire, mais on enlève la croix. Autrement dit, c'est comme si on fait ce que Satan fait. Et si on veut se mettre à travers des saisons de Dieu, puis on veut faire avancer le royaume sans conflit, le royaume sans la souffrance, le royaume sans la croix, on prend la cause du diable. Et on ne met pas notre esprit sur les intérêts de Dieu, mais de l'homme. Pierre voulait juste aider Jésus. Pierre voulait juste l'éviter à souffrir. Et savez-vous que la voie du diable est toujours que pour essayer d'amener des chrétiens à penser que le royaume de la lumière peut avancer sans souffrir, en faisant certaines petites concessions et compromis avec le royaume des ténèbres. C'est ça que Satan voulait faire. Il veut faire avancer le royaume de Jésus, mais avec le royaume des ténèbres. Et ce que Pierre a fait, et le péché de Pierre, ça a été répété sans cesse tout au long de l'histoire de l'Église, et même encore aujourd'hui. Les chrétiens ont essayé d'aider Jésus à construire son royaume en faisant des accords avec le diable. Ça veut dire quoi? Tout ce que je dis, c'est que tout effort pour faire avancer le royaume de Christ avec les plans du monde, dans un plan mondain, c'est faire le travail du diable. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Et là, c'est la chair qui parle. Là, tu n'es pas spirituel, mon ami. Là, tu veux faire avancer le royaume de Dieu, mais avec la chair. Et quand on s'associe avec le plan mondain, avec les gens du monde, on participe au travail. On travaille avec le diable. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, « Ils me détestent parce que je leur dis que leurs actes sont mauvais. » Ils me haïssent. Ils vont vous haïr également. C'est ce que Jésus a dit en parlant du monde. Et souvent, il y a toujours cette propension parmi les leaders à essayer d'éliminer l'hostilité. De bonnes intentions pour l'amour du Christ. On veut faire avancer le royaume par le changement social. L'évangile superficiel, le divertissement, la manipulation émotionnelle et l'acceptation du péché, dans bien des cas. Tout cela, c'est de faire le travail du diable. Et je dirais que aujourd'hui, la nouvelle Église émergente, la nouvelle tendance dans les nouvelles églises, soi-disant chrétiennes, c'est de participer à l'Évangile avec le monde. Le chemin de notre Seigneur est de rester du côté du royaume de la lumière. Et mes amis, il y a vraiment une ligne entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, l'apôtre Paul dit que nous sommes chrétiens, nous n'utilisons pas d'armes humaines. Nous ne pouvons pas faire la guerre spirituelle avec des armes humaines, avec des stratégies humaines. Les armes de la guerre ne sont pas humaines, mais divinement puissantes pour la destruction des forteresses. Autrement dit, notre travail n'est pas de faire des alliances avec le monde et de penser que ce faisant, nous pouvons faire avancer le royaume, comme si Satan venait aux côtés du Christ pour l'aider dans la construction de l'Église. Franchement, 1 Jean, Il est dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et dans Jean, chapitre 4, verset 4, le titre du message, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Le royaume de la lumière, le royaume de Christ n'a pas besoin d'aide du royaume du diable. Nous n'avons pas besoin d'un groupe de pression à Québec. On n'a pas besoin d'un lobbying chrétien auprès du gouvernement afin de faire avancer l'œuvre pendant cette crise sanitaire. Peu importe ce qui va arriver, parce que Dieu est en contrôle. Et je dirais même plus que ça, il n'est pas pertinent que dans d'autres pays qu'il y ait des lois qui soient en accord avec l'Évangile. Peu importe les lois qui sont faites ou non, elles n'auront jamais un impact sur la construction de l'Église, car Jésus a dit qu'il construirait son Église. Jésus a dit, « Je construirai mon Église et les portes des morts ne prévaudront pas contre elle. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne perdrai aucun d'entre eux, mais je les élèverai au dernier jour. » Christ va triompher. Christ a dit, « Je vais construire mon Église. » Le séjour des morts, la mort qui appartient à Satan, peut rien faire. Autrement dit, Jésus n'a pas besoin de partenariat avec le monde. Nous n'avons même pas besoin de chercher l'attention du monde. Nous n'avons pas besoin d'acheter des intérêts dans le monde. Comme si le monde nous ouvre la voie du salut. Ce que nous avons à faire, c'est de prêcher l'Évangile. Peu importe les mesures sanitaires, peu importe le confinement, peu importe la distanciation, la vaccination obligatoire et autres, le Seigneur construira son Église. Mais c'est comme si les croyants souvent sont devenus comme la réplique de Pierre à Jésus. Ils sont à la recherche d'alliances avec notre ennemi. Comme si cela peut aider la cause de l'Église. Écoutez, les apôtres ont bouleversé le monde sans aide, sans action sociale, sans alliance. Le royaume maléfique des ténèbres déteste ce que Dieu aime et aime tout ce que Dieu déteste. Et le royaume des ténèbres ne sera jamais un ami de la lumière. C'est soit les ténèbres ou c'est soit la lumière. Les dirigeants mondialistes ont échangé la vérité de Dieu contre un mensonge. Puis ils fonctionnent sous l'ultime menteur qui est Satan lui-même. Parce que la Bible dit que Satan, c'est le père du mensonge. À plus forte raison, nos dirigeants mondiaux sont un aperçu de ce qui est de l'impie qui va venir dans l'Apocalypse, c'est-à-dire l'Antéchrist. Alors, il y a le royaume de Dieu, le royaume de vérité, le royaume de Christ, puis vous avez le royaume de Satan, le royaume du mensonge, le royaume de l'Antéchrist. Si je vais dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 14, on va tourner dans l'Évangile, pas l'Évangile, mais dans l'Épître d'Éphésiens, chapitre 5, 8 à 14, c'est vraiment intéressant. Où il est dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Exposez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est éprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Alors, Éphésiens est clair ici. Ne soyez pas liés au monde. Ne soyez pas liés à des incroyants. C'est pas dur à comprendre. C'est une déclaration sans réserve. Aucun partenariat. Il y a la justice, il y a l'anarchie. Il est écrit aussi, quelle harmonie le Christ a-t-il avec Bélial? Bélial, c'est un nom pour le diable. C'est quoi le rapport entre un croyant et un incroyant? C'est quoi le rapport entre le temple de Dieu et avec les idoles? La Bible dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Écoutez, Dieu a dit, je vais habiter en eux, et marcher parmi eux, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Par conséquent, sortez du milieu et soyez séparés, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et je serai un père pour vous, et vous serez fils et filles pour moi, dit le Seigneur Tout-Puissant. Par conséquent, ayez ces promesses, bien-aimés, nous purifions de toute souillure de chair et d'esprit, perfectionnant la sainteté dans la peur de Dieu. On est le temple de Dieu. Hey, c'est quelque chose. Deux royaumes opposés. L'un qui est marqué par la justice, l'autre est marqué par l'anarchie. L'un est vieux, l'autre est nouveau. L'un est terrestre, l'autre est céleste. L'un est matériel, l'autre est spirituel. Il y en a un qui est plein de mensonges, puis l'autre est véridique. C'est clair, la Bible dit, ne soyez pas liés avec les incroyants. Ça ne veut pas dire de sortir du monde. Quand Jean dit, je ne demande pas, Père, que vous les enleviez du monde, dans l'évangile de Jean, mais que vous les gardiez du mal. Puis ça, quand la Bible dit dans le Nouveau Testament, ne soyez pas liés avec les incroyants, ça vient de Deutéronome, l'Ancien Testament, chapitre 22, verset 10, j'en avais déjà parlé, alors qu'il est dit, vous ne labourerez pas avec un bœuf et un âne ensemble. Tu ne peux pas labourer une terre et faire quelque chose de droit, un sillon qui est droit, avec deux bêtes différentes et deux natures différentes, deux démarches différentes, deux dispositions différentes. Ils ne vont vraiment pas ensemble. Puis aujourd'hui, on dirait que sur le plan social, c'est l'intérêt de l'Église. L'Église a un certain intérêt dans l'impact social qu'elle va faire. En voulant s'associer avec le monde, d'avoir un partenariat, comme si faisant un genre d'effort pour réparer les choses qui ne sont pas justes sur la planète. Si on voit ça là, présentement, là, le plan vert, être environnemental, essayer de réparer les choses, les conflits, puis... Puis on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas sur la terre. Mais ce n'est pas nouveau, frères et sœurs. Genèse, chapitre 6. Quand Dieu a regardé la terre, mieux que nous, là, il regarde la terre, et c'est écrit, tout ce qu'il vit était mal continuellement. Pensez-vous que Dieu n'a pas regardé le climat social qu'il y avait sur la terre avant nous? Si vous voulez réparer la planète, vous avez un gros travail à faire. Si vous voulez corriger tous les maux sociaux, si vous voulez corriger tous les abus, toutes les inégalités, la violence, la guerre, c'est tout qu'un défi, c'est un problème très difficile. Surtout si vous ne faites rien pour changer les gens. Le problème, ce n'est pas la Terre, le problème, ce sont les gens, justement. Pourquoi? Parce que les gens sont pécheurs. Si vous mettez une barrière dans une catégorie pour prévenir un péché, ils vont juste s'écarter dans une autre catégorie où le péché trouve la vie. Si vous prenez un voleur, vous lui enlevez les deux bras, il va voler avec ses pieds. Excusez-moi, là. Si vous enlevez les pieds, il va voler avec sa bouche. On ne peut rien faire. Le problème, c'est que le monde est pécheur. Alors, que fait donc l'Église en joignant la cause commune? La cause commune avec la distorsion de la vérité, avec des attitudes haineuses envers le Christ. C'est pour ça que la Bible dit « Ne soyez pas liés à des incroyants. » Et ça, on le voit en commençant dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 23, verset 31, quand Dieu a dit « Je fixerai votre frontière » et parle du peuple juif, de la mer Rouge à la mer des Philistins, du désert à l'Euphrate, « Car je livre les habitants de la terre dans votre main, vous les chasserez devant vous. Vous ne ferez aucune alliance avec eux ou avec leur Dieu. Ils ne vivent pas dans votre terre parce qu'ils vous feront pécher contre moi. » Car si vous servez leur Dieu, ce sera certainement un piège pour vous. Dieu avait déjà pris des dispositions quand il avait donné la terre promise au peuple Israël. Avant qu'il arrive justement dans la terre promise, Dieu avait pris des dispositions. C'est quoi la réalité? Vous devez les retirer de la terre parce que vous ne pouvez pas survivre à leur présence. Pourquoi? Parce que le monde à l'époque, c'est un monde qui était impie, c'est un monde qui était puissant, c'est un monde qui était séduisant, même pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, tu dois les conquérir. Et même, c'est grave, vous devez les détruire. Tu dois les chasser parce que tu ne seras pas capable de survivre. Wow! Plus loin, dans le 34e chapitre de l'Exode, il dit bien, « Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs poteaux sacrés. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Ils risqueraient de t'inviter lorsqu'ils se prostituent à leur Dieu et leur offrent des sacrifices. » Écoutez plus loin. Et tu mangerais des victimes qu'ils ont sacrifiées. Tu prendrais de leurs filles, pour tes fils, et celles-ci, en se prostituant à leur Dieu, entraîneraient tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras pas de Dieu en métal fondu. Exode. C'est grave ce que Dieu leur dit. Il dit, ça va dégénérer, mon ami. Tout ce qu'ils font, leur Dieu, leur faux Dieu, leurs sacrifices, ils font des sacrifices. L'Ancien Testament le dit. Mais c'était des sacrifices humains. Mm-hmm. et tu vas manger des victimes. Puis quand plus loin, on arrive dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans le pays de la promesse, il y a encore une réitération de ces avertissements. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. De faire aucune alliance avec ces gens-là. Puis nous autres, on pense, bien, pourtant, ces gens-là pourraient vraiment suivre le peuple, suivre leurs coutumes, vénérer un seul Dieu, le Dieu Yahvé. Mais non. Sachant comme Dieu est omniscient, il sait qu'est-ce qui va arriver. Puis il leur dit en plus. Vous ne vous entremêlez pas avec eux, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils, car ils détourneront vos fils de me suivre pour servir d'autres dieux. Ainsi, la colère du Seigneur sera suscitée contre vous et vous détruira rapidement. Il dit, démolissez les autels, brisez les statues, les idoles, brûlez les images, car vous êtes un peuple saint. Le Seigneur votre Dieu vous a choisi pour être un peuple pour sa propre possession de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. On est un peuple qui appartient à Dieu. Faut voir plus loin que le côté charnel. Faut voir plus loin que la Bible dit qu'on ne s'appartient pas, on appartient à Dieu. Ça veut dire que Israël était meilleur, puis nous autres, l'Église, à cause que, bon, ben, on est sauvés, qu'on est meilleur que les incroyants. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu, il dit, je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez plus nombreux que les autres peuples. Car vous étiez le moins nombreux de tous les peuples. Mais savez-vous ce que le Seigneur dit? Une déclaration étonnante. Mais c'est parce que je vous aimais. Et aujourd'hui, le Seigneur nous aime. Il veut nous protéger. Comme il voulait protéger le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Comprenez-vous?
Oui. Je comprends.
Il veut nous protéger. Ça veut dire quoi de protéger? Je vais vous le dire, qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu va détruire tous ceux qui t'entourent et qui pourraient te séduire et te détourner vers les ténèbres. Le Seigneur peut le faire parce qu'il veut te protéger. Puis le monde, c'est ça. Le monde est sous l'emprise du malin. Le monde va t'entraîner dans les œuvres des ténèbres. Et Dieu dit non, je ne veux pas. Parce que je te protège, tu m'appartiens. C'est sa volonté que tu sois protégé. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament? Ils n'ont pas compris Israël. Ils ne se sont pas isolés. Ils n'ont pas détruit les gens. Puis eux autres sont devenus idolâtres. Puis ils ont fait des alliances avec ces gens-là. Et voyez l'histoire d'Israël. C'est triste. Qu'est-ce qu'Isaïe, chapitre 30, dit? Malheur aux enfants rebelles, déclare le Seigneur, qui exécutent un plan, mais pas le mien. Ça ressemble à ce qu'on a lu dans Matthieu. Pierre, il dit, non, non, Seigneur, il dit, tu mourras pas, inquiète-toi pas, on va prendre ça en main, on va prendre l'Évangile, on va... Hey! Jésus voulait pas, c'est pas le plan du Seigneur. Le plan du Seigneur, c'est que Jésus fallait qu'il aille à la croix. Mais ce que Pierre a dit, là, c'est ce que les enfants d'Israël, c'est comme s'ils avaient dit à Dieu, C'est correct, on a compris, mais on va s'organiser pour suivre quand même notre plan, puis ça ne fonctionne pas. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu, et notre plan, c'est de suivre le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, « Votre intérêt n'est pas celui de Dieu, mais celui de l'homme, qui exécute un plan, mais pas le mien, et fait une alliance, mais pas de mon esprit, afin d'ajouter le péché au péché, qui descend en Égypte sans me consulter pour se réfugier dans la sécurité du Pharaon. » Autrement dit, qui demande une protection politique. Écoutez, l'Égypte, c'était le monde, c'était les dieux, il y en avait, c'était épouvantable. C'était pas la place à aller pour le peuple de Dieu. Il dit, vous faites des alliances, des accords politiques avec l'Égypte. Dieu dit, la sécurité du Pharaon sera votre honte. Votre honte est l'abri dans l'ombre de l'Égypte, votre humiliation. Tout ce que vous allez sortir des alliances avec l'Égypte, écoutez là, l'Égypte, dans ce temps-là, c'était gros. Vous avez vu tous les films quand on parle du pharaon d'Égypte? C'était vraiment une puissance. Dieu dit, tout ce que vous allez sortir des alliances avec l'Égypte, c'est la honte et le reproche. Et vous allez faire comprendre au monde qui regarde, qui vous regarde, que vous ne faites pas confiance à votre Dieu. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour obtenir de l'aide, des comptes sur les chevaux et la confiance dans les chars, parce qu'ils sont nombreux et en cavaliers parce qu'ils sont très forts. Et ils ne se regardent pas vers le Saint d'Israël, ni cherchent le Seigneur. Autrement dit, tu vas chercher des alliances avec quelque chose de gros, avec un gouvernement, avec un pharaon, puis moi, tu me laisses. On n'obtiendra rien avec le monde, peu importe que ce soit le gouvernement, que ce soit les gens, que ce soit les compagnies, on ne peut rien avoir avec le monde. Vous n'allez rien obtenir en vous confiant dans les dirigeants mondiaux, dans les politiciens. Ce sont des incroyants. Ça nous rappelle les interdictions qu'il y a eu dans l'Ancien Testament. L'Égypte, c'était gros dans l'Ancien Testament. Puis Dieu avait tout fait là, pour Israël. Là. Il y avait des lois alimentaires, il y avait des exigences en matière de vêtements, il y avait des exigences dans un calendrier, il y avait des exigences pour les préserver. Si on revient aujourd'hui à l'Église, qu'est-ce que Paul dit? Il dit la même chose. Il dit, quel partenariat ont la justice et l'anarchie? Quelle communion à la lumière et les ténèbres? Ne pas être en partenariat avec le monde. Qu'est-ce que Matthieu, chapitre 7, verset 23, Jésus a dit, « Vous n'entrez jamais dans mon royaume parce que vous êtes sans la loi. » Vous êtes sans loi. Encore une fois, il n'y a rien de commun avec la lumière et les ténèbres. Les enfants de la lumière vont marcher avec les enfants des ténèbres. Pensez-y deux minutes. Dans une sorte de cause, l'Église et le monde. Ce n'est pas possible. On peut être avec les gens dans des entreprises, on peut travailler avec des gens, on peut avoir un certain partenaire, Mais on ne peut pas faire un partenariat pour faire avancer l'Évangile avec les gens du monde. C'est impossible. C'est deux puissances différentes. La Bible dit encore une fois, quelle harmonie le Christ a-t-il avec Bélial? Bélial, c'est une représentation de Satan. C'est utilisé 12 fois dans l'Ancien Testament. Quand vous faites un partenariat avec le monde pour l'Évangile, vous faites une alliance avec une idéologie athée, impie, sans Christ, vengeur, haineux, raciste. C'est complètement l'opposé. On pense qu'on va pouvoir peut-être avoir un accord. Certaines personnes vont dire « Ah, mais c'est proche, là. On va y arriver. » Non, c'est pas vrai. À quelque part, ça va arrêter parce que la ligne est trop, trop large entre les deux royaumes. La seule façon que les gens vont changer, vont pouvoir prendre notre cause, c'est quand les gens vont être transformés par l'Évangile, vont être transformés dans leur cœur. Le monde fonctionne à vue. Nous, nous opérons par la foi. Eux autres, les gens fonctionnent sur le plan temporel. Nous autres, on fonctionne sur le plan spirituel. Nous fonctionnons par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Les gens fonctionnent par la chair. Nous, nous avons confiance en Dieu. On est chrétiens. Eux, ils ont confiance en eux-mêmes. Eux, on va faire confiance au pouvoir militaire, à des forces idéologiques, à des pouvoirs financiers. Nous, c'est avec Dieu. Rappelez-vous dans Ézéchiel, je reviens, je fais... Ézéchiel chapitre 8, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de... Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel avait une vision. Non, excusez-moi, pas Ézéchiel chapitre 8, mais 1 Samuel chapitre 4 à 6, les Philistins avaient capturé l'Arche de l'Alliance. Les ennemis du peuple juif, ils ont capturé l'Arche de l'Alliance. Puis ils l'ont amené chez eux, puis je fais ça vite quand même, là. Puis ils ont mis ça dans, on dit ça, la maison de Dagon. Dagon, c'était un genre de dieu pour les Philistins. Puis vous vous souvenez de l'histoire? Le lendemain matin, ils ont mis l'Arche de l'Alliance à côté de Dagon. Le lendemain matin, les Philistins rentrent dans... Je ne sais pas si c'était un temple ou c'était un endroit... l'idole était renversée. Comme ça, elle avait tombé. En voulant dire, tu ne peux pas mettre l'Arche de l'Alliance avec une idole. Mais les Philistins... Alors, ils ont pris, puis ils ont mis Dagon, probablement sur ses pieds, je ne sais pas. Là. Le surlendemain... Ils sont allés revoir. Il était renversé, encore une fois. Sa tête était coupée, puis il était démembré. L'Arche de l'Alliance, qui représentait tout, qui était dans le lieu très saint. Ça veut dire quoi, ça? L'Arche de l'Alliance. Oui, mais le lieu très saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le temple de Dieu, c'est la présence de Dieu. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'on était le temple de Dieu. La présence de Dieu est en nous. Écoutez, là, l'Arche de l'Alliance est là, Dagon est là, c'est une statue, c'est pas quelqu'un qui... C'est pas un être humain, là. Dieu dit non, ça fonctionne pas. L'Arche de l'Alliance à côté d'un faux Dieu... Je vais me débarrasser de ce faux Dieu-là. Mais nous qui avons cette nouvelle alliance, alors que Dieu dit, je suis avec toi, je suis, vous êtes le temple de Dieu, c'est quelque chose. Puis on dit, on va s'associer avec des gens qui ne croient pas en Dieu. Voyez-vous le rapport? Qu'est-ce que le temple de Dieu a à voir avec des idoles? L'Esprit de Dieu habite en nous. Jean chapitre 14, verset 20. Regardez ce que Jésus a dit. Je suis dans le Père et vous en moi et moi en vous. Des fois, on ne comprend pas ce qu'on dit. On ne comprend pas que le Saint-Esprit habite en nous. Mais c'est plus que ça, c'est je suis dans le Père et vous en moi et moi en vous. Vous êtes, quand on se regarde, on est charnel, on se regarde, on est des personnes. On est plus que ça. Notre identité, c'est plus que ça. On est le temple de Dieu. C'est difficile à comprendre parce qu'on est limité par notre chair. Christ est en moi. Tu ne peux pas lier le Christ à une idole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais habiter en eux et marcher parmi eux et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Je vais habiter en eux et marcher parmi eux et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Je serai un père pour vous et vous serez fils et filles pour moi. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, puis Dieu a fait une alliance éternelle avec nous. On voit dans Ézéchiel, quand on parle du millénium, les choses à venir dans le futur, il dit, je ferai une alliance de paix avec eux, ce sera une alliance éternelle avec eux. Je mettrai mon sanctuaire parmi eux pour toujours. Ma place d'habitation sera également avec eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Toutes les promesses que Dieu a faites. Toute la promesse, le royaume millénaire du Christ, des temps de rafraîchissement, des temps de restitution, le jour du Seigneur, un règne de 1000 ans. Il y a un chose, il y a des choses qui s'en viennent, il y a des événements qui vont s'en venir, il y a des promesses qui vont être pour nous. Des temps pas de guerre, des temps sécures, des temps qui vont avoir de la joie, le royaume de Dieu qui va être sur cette terre. Il y en a qui vont dire, « Ouais, mais sais-tu, on a un mandat en tant qu'Église, en tant que chrétien, on a un mandat dans la ville, dans notre municipalité. » Dans notre village, on est des on représente quand même l'Église. On a un genre de mandat envers les gens de la communauté. Savez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 20? Jésus a commencé à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. La plupart des miracles que Jésus a fait, Jésus a fait des reproches dans ces villes-là. Un mandat urbain, c'est pas seulement être avec les gens et les aider. Un mandat urbain, c'est de les avertir. C'est de prêcher l'Évangile. De les avertir qu'il y a un jugement qui s'en vient. Qu'il y a un jugement qui est à nos portes pour ceux qui rejettent le Christ. Et Dieu Jésus a reproché à des villes. Jésus avait fait des miracles. Jésus avait fait, était allé dans ces villes-là. Les gens ne s'étaient pas repentis. Il y a eu vraiment des reproches. Alors voyez-vous, le mandat, oui, pour le communautaire, mais l'Évangile en premier. Puis on voit, en terminant, on voit dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, chapitre 18. Je vais seulement tourner. Apocalypse, quand il parle de la ville rebelle, Babylone. Comment que Dieu va détruire. Peu importe ce qu'on peut penser de chapitre 18 de l'Apocalypse, ça peut être une ville, ça peut être un pays, ça peut être... Il y a beaucoup de gens, beaucoup de spéculations sur ce que ça peut être. Mais c'est écrit, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Pourquoi? À cause de ses péchés. Alors c'est clair. Le Seigneur veut faire un appel pour la séparation. Le Seigneur veut qu'on soit à l'écart de toute souillure, de se séparer, d'être un peuple saint, nous amener à la perfection. On n'a pas besoin de l'ennemi, on n'a pas besoin de Satan pour faire avancer le royaume de Dieu. On n'a pas besoin de faire alliance avec le monde. On peut les aider tout en prêchant l'Évangile. Mais on ne fait pas de partenariat dans l'Évangile. Notre appel est clair. Faire briller la lumière dans l'obscurité. Et ne pas se mêler aux ténèbres. Amen.
Amen.